Bonjour à tous, je vois que la maison est bien pleine ce matin et on est heureux d'être avec vous ce matin. Ça fait très longtemps que vous n'étiez pas venu à Argenteuil et donc de voir
les clubs pour les enfants, allez-y.
On voit que c'est une vraie église bâtie sur la Bible puisque l'Exode a lieu tous les dimanches matin. Vous qui n'avez pas l'occasion de partir avec les enfants, vous devez rester ici avec moi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans le livre de la Genèse. On va lire plusieurs versets. Genèse chapitre 13 d'abord. Genèse chapitre 13. À partir du verset 10, Genèse chapitre 13, à partir du verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Maintenant, regardons Genèse chapitre 19 et verset 14. Genèse chapitre 19 et le verset 14. On va peut-être monter un petit peu à verset 12. Nous sommes dans la ville de Sodome. On est avec les anges qui sont venus visiter Lot et sa famille. Les hommes, ces anges, dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. » L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Maintenant, l'apôtre de Pierre, qui a écrit deux épîtres, la deuxième de Pierre, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques 1 et 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 6. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 6. Si il, Dieu, a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes justes et réservé les injustes pour être puni au jour du jugement. Je vais vous parler ce matin d'une histoire magnifique et d'une histoire tragique. Et les deux histoires ont lieu dans la même famille. L'histoire merveilleuse a lieu dans la famille de l'oncle, oncle Abraham. L'histoire tragique a lieu dans la famille du neveu, Lot. Dans le premier livre de la Bible, on rencontre l'ami de Dieu, comme Dieu l'appelle lui-même, Abraham, le père des croyants, le patriarche de la nation d'Israël. On découvre un homme, Abraham, qui malgré ses défauts, et la Bible les explique bien, les défauts d'Abraham, malgré tout cela, il a une vraie marche avec Dieu. Nous avons également un neveu, son neveu Lot. Et lorsqu'on pense à une famille croyante, mais dont la famille a raté, on pense presque immédiatement à la famille de Lot. On pense à Lot en se disant, ce n'est pas possible, cet homme n'aimait pas le Seigneur. Peut-être on ne trouvera pas cet homme au ciel. Sa famille a totalement raté. C'est quelqu'un de vraiment, vraiment pas quelqu'un de bien. Et c'est sans doute quelqu'un qui n'aimait pas Dieu. Et on a cette pensée quand on quitte le livre de la Genèse. On a de lui une très mauvaise opinion. On lit toute la Bible. Il faut arriver jusqu'en 2 Pierre, presque à la fin de la Bible, pour découvrir que Dieu dit lui-même que Lot était un homme juste. Lot était tellement, et d'ailleurs, il est peut-être plus juste que vous et moi. Parce que la Bible dit qu'il ne s'est jamais habitué au péché de la société qui l'entourait. Alors que nous autres, on s'habitue quand même assez bien et assez facilement, assez rapidement au péché. On dit, ben, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? Il ne s'est jamais habitué à l'immoralité de la ville de Sodome alors qu'il vivait en plein milieu de la ville. Sa haine du péché ne s'est jamais émoussée. C'est quand même un magnifique verdict de Dieu, de cet homme-là. Tous les jours, son âme était tourmentée. Et pourtant, il a perdu toute sa famille. On va parler de deux foyers à des valeurs opposées. Une famille était pieuse, c'était celle d'Abraham, malgré bien sûr ses défauts. L'autre était mondaine, malgré l'âme juste du père. Dans une famille, qu'y a-t-il ? Il y a deux chefs de famille, deux hommes ici. Il y a deux adjoints, c'est les épouses. Sarah, pour Abraham, la femme de Lot, on ne connaît pas son prénom. Et puis vous avez des enfants. Papa, maman et les enfants. Et en passant un peu les différents éléments de ces deux familles, un peu au microscope, un peu au scanner, en regardant un peu dans leur cœur, dans leur motivation, on trouve des clés qui peuvent nous servir pour nos propres familles. Parlons d'abord des deux chefs de famille. Genèse chapitre 12, nous revenons à la découverte de cet homme qu'on appelle Abraham. Un homme universellement aimé. Et les juifs, et les musulmans, et les chrétiens le prennent tous comme leur modèle, comme leur père. Dieu nous appelle les enfants d'Abraham. Les juifs s'appellent les enfants d'Abraham. Et nos amis musulmans, ils sont très fiers d'avoir Abraham comme leur père aussi. C'est assez rare que tout le monde soit d'accord pour honorer un homme. Mais cet homme était un appelé de Dieu. Il habitait en Ur des Chaldées, c'était la civilisation sumérienne, une brillante civilisation. Abraham vit à peu près 500 ans après le déluge. Donc le monde est relativement jeune, puisque tout avait été détruit 500 ans auparavant. Il jouit d'un statut privilégié, ce n'est pas un SDF, c'est un homme qui vit très très bien, dans une magnifique ville, dans une magnifique civilisation. Tout va pour le mieux pour Abraham et Saraï. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui va être le Dieu d'Israël, l'appelle cet homme et dit « Quitte tout ce que tu connais, va vers un pays que tu ne connais pas, je ne vais même pas te dire dans quel pays tu vas aller, je vais te conduire et tu vas me suivre. » Il y a un livre qui s'appelle « Les dons des Juifs », un livre écrit par un athée qui écrit à nous occidentaux comment les Juifs ont impacté notre vie. Et son premier chapitre, c'est Abraham. Ce qui nous donne de la valeur à notre vie, c'est le sens du destin. Il y a une raison de vivre. Je ne suis pas là par hasard. Il y a quelqu'un en plan pour ma vie. J'ai de l'ambition. Je veux devenir quelque chose. Je veux faire quelque chose. Je veux aller quelque part. Et c'est important d'avoir ce sens, que ma vie a un sens. Et ça, c'est Abraham qui nous a légué ça. Quand on lit, Dieu dit à Abraham, « Va-t'en, suis-moi, je vais faire de toi une grande nation, je vais faire de toi une bénédiction, c'est le sens du destin. » Et Abraham se lève et quitte tout ce qu'il a connu. Il va à l'aventure, mais pour réaliser son destin. Et donc, il fait ça, et quand il s'en va, Et Dieu lui fait ses promesses. La Bible dit que quand il arrive dans ce pays, et tout au long de son parcours, verset 8, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, il dressa ses tentes, et en Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il est déjà dans le pays de Canaan, il bâtit là encore un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Il faut imaginer Abraham qui part faisant avec ses tentes, ses troupeaux, sa famille, ses domestiques, un vrai pèlerinage qu'il va faire dans les 2 ou 3 000 kilomètres. Et tout au long du chemin, à des moments réguliers, il s'arrête. Les tentes sont dressées, les troupeaux, on s'en occupe. Et lui, le patriarche, s'en va tout seul, un peu plus loin. Et avec quelques pierres, fait un autel, offre un sacrifice. Et là, devant ce sacrifice et devant la face de Dieu, il a un temps privilégié de communion avec celui qu'il a appelé. Il maintient un culte personnel. Il a une vie spirituelle. Il maintient en contact avec l'Éternel. C'est cela que nous devons capter ici, car c'est le secret de la vie d'Abraham, cette vie de culte, cette vie de communion, cette vie où il maintient, il établit en contact avec l'Éternel. Pour cela, il devait offrir un sacrifice. C'était des frais, c'était du travail. Mais il ne néglige pas ce temps. Aujourd'hui, nous, on peut juste ouvrir la Bible et fermer nos yeux et prier. Et nous avons un contact avec l'Éternel plus intime que le sien. Cette vie de culte personnel va marquer la vie d'Abraham et va marquer la vie de sa famille. Alors, Lot... Ce n'est pas Lot qui a entendu la voix de l'Éternel. Ce n'est pas Lot qui a été appelé par l'Éternel à aller en Canaan. Mais puisque son père était mort, il était orphelin, tonton Abraham l'a pris sous son aile et l'a amené avec lui. Et Lot est allé avec Abraham, son neveu. Apparemment, les choses se passaient relativement bien entre eux. Abraham a dû donner à Lot, ou bien Lot a reçu de son père, un héritage. Les deux hommes étaient éleveurs, itinérants, là en là, au gré des pâturages qu'ils trouvaient pour leurs animaux, et Dieu les conduisait jusqu'en Canaan, un pays très riche. Et donc, il a vu l'exemple de son oncle. Il avait une connaissance de l'Éternel. Apparemment, Abraham lui a expliqué sa démarche, il a expliqué qui est ce Dieu qui est arrivé de nulle part, l'Éternel. Qu'il a appelé, comment Dieu l'a appelé, pourquoi il faisait ce long voyage. Et Lot, le neveu coopérant, vit avec son oncle, le suit. Quelque part là-dedans, il trouve une femme et puis il a des enfants, il en a 4 même. 4 filles. Mais comme on l'a vu dans la première lecture, à un moment donné dans ce pays de Canaan, Lot était devenu assez riche, Abraham était riche, les deux hommes avaient beaucoup de bétail, et il n'y avait pas assez de pâturage pour qu'ils vivent l'un à côté de l'autre. Et c'est Abraham qui dit, écoute, Lot, ce n'est pas le but que nos domestiques se disputent les pâturages entre eux. Tes domestiques, ils ont bien raison de s'occuper de tes brebis et mes domestiques de s'occuper des miennes. Et alors nos domestiques, nos cow-boys, ils vont se disputer l'herbe. Il faut qu'on se sépare l'un de l'autre. Tu vas là-bas, je vais de l'autre côté direct. Voilà, il faut qu'on se sépare pour notre bien-être, pour nos relations interpersonnelles. Lot, au lieu de dire, écoute, papa, tonton, tu es bien plus âgé que moi, tu fais le premier choix et je prendrai ce qui reste, c'est ce qu'il aurait dû faire. Hein. Mais il lève les yeux et dit, oula, là, il y a de l'herbe en abondance, c'est la plaine, c'est facile à vivre, c'est sympa, et peut-être pour ma femme, il y a des boutiques dans les villes là-bas, dans le train de la plaine. Il dit, ça, c'est le meilleur lot, ça, c'est pour moi. Lot choisit le meilleur lot. Hein. Et il s'en va vers la plaine, vers l'herbe, vers la facilité, vers la culture, vers les lumières qui brillent. Et Lot, qu'est-ce qu'il laisse à son oncle? Il laisse les montagnes, là où l'herbe est rase, là où il faut aller plus loin pour trouver ce qu'il faut. Ah, mais c'est lui qui m'a dit, il faut se séparer, ben moi j'ai choisi, hein. j'ai choisi. Je suis malin, moi. J'ai fait le bon choix. Ce sera plus facile pour moi. Il a fait un choix. Il a fait un choix. Il va vivre donc dans la plaine pendant un petit moment, mais au mesure, peut-être Madame Lot y est-il pour quelque chose. Allez, approchons-nous un petit peu de la ville, approchons-nous, puis arrêtons aux portes de la ville, mais qu'est-ce qui nous empêcherait d'acheter une maison en pleine ville? Comme ça, j'ai loin pour les boutiques avec quatre filles, vous savez, ça aime le shopping. Hein? Et on va s'installer à Sodome et il va même devenir membre du conseil municipal. Parce qu'il est fait partie des hommes qui s'assient à la porte de la ville pour traiter les affaires de la cité. Il va être pleinement impliqué dans la culture, dans la vie de Sodome. Il va se laisser prendre au piège peu à peu. Un peu comme la grenouille que l'on met dans de l'eau froide où elle est bien, puis on met le gaz et puis l'eau chauffe mais imperceptiblement. Et la grenouille, ben oui, mais elle est bien, et puis comme l'eau chauffe imperceptiblement, elle ne se rend pas compte du danger, et avant qu'elle ne puisse comprendre le danger qui la guette, elle est bouillie, elle est cuite. Ben oui, parce que si on l'avait mis dans de l'eau chaude directement, elle aurait sorti tout de suite, mais peu à peu, elle s'est habituée, cette grenouille, il s'est habitué, ce Lot, sans jamais s'habituer à l'immoralité grossière. Mais il était mal à l'aise, il était mal à l'aise dans le monde, mais pas assez mal à l'aise pour en sortir. Et ça, il faut s'en souvenir. D'un côté, Abraham qui maintient un culte à l'Éternel, il préfère la solitude avec l'Éternel que la compagnie des gens sans l'Éternel. Lot, il aime bien le Seigneur. Il a du respect pour ce qui est pur et droit, mais il aime le monde, sa femme aime le monde, et il n'a pas assez de courage de vraiment pourvoir pour sa famille une belle et sainte influence. Et peu à peu, ben, la vie de famille, l'atmosphère familiale devient de plus en plus mondaine. Mais peu à peu, pas tout de suite, hein. Peu à peu. Jusqu'à ce qu'il ait perdu sa famille. Voilà pour les deux chefs de famille. Parlons maintenant de leur femme. Sarah, quand vous lisez le livre de la Genèse et vous quittez le livre de la Genèse, généralement, on dit Sarah, bon, c'est pas... Abraham, oui, comme ça. Malgré le fait qu'Abraham a quand même a exposé sa femme à deux reprises à l'immoralité pour sauver sa peau. On n'y réfléchit pas trop à ça. On pense à Abraham qui lève le couteau pour sacrifier Isaac par loyauté à l'Éternel. On dit, ça c'est un monsieur, ça c'est un homme de foi. Et on ferme le livre et on, ça, c'est notre héros. Sarah, pourtant, n'a pas fait aussi mal qu'Abraham. Mais quand ce qui nous trouble un peu, c'est quand Sarah dit à son mari, « Bon, mais je n'arrive pas à avoir des enfants, tu vois, je suis stérile. » Tu n'es plus tout jeune, moi non plus. Prendre un domestique, tu vas prendre voilà, Agar, et puis avec elle, ben on le rend, c'est la mère porteuse hein, avant l'heure. Hein. Mais nous n'imaginons pas la souffrance que ça a dû causer à Sarah de faire ça. Que n'importe quelle femme se mette à la place de Sarah, elle était tellement. Elle voulait tellement que la parole de Dieu s'accomplisse. Elle voulait tellement que la promesse de Dieu s'accomplisse pour son mari qu'elle était prête à lui donner sa domestique, sa servante, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Combien d'entre nous seraient prêts à faire un sacrifice pour la gloire de Dieu? Sacrifice inutile. Mais on ne le savait pas à l'époque. Sans consulter l'Éternel, ils ont décidé de faire ça. Quand même. Mais ce qui nous gêne un peu, ce qui nous un peu chipote, c'est que quand elle est en finalement, quand Dieu lui dit l'année prochaine à cette heure, à ce moment de l'année, tu auras un fils. Elle était derrière à la porte et puis elle entend ça et elle rit. Elle rit. J'ai quand même 90 ans. M'étonnerait. Mais tu vois sa place, hein? une femme stérile, 90 ans, vous allez en avoir un enfant d'ici un an. Ouais, c'est ça. Mais l'ange de l'Éternel, qui savait ce qu'elle pensait, parce que c'est Jésus avant Bethléem. Pourquoi tu as ri? Alors, vous vous êtes pris au piège, là. Parce qu'elle a pari audiblement. Mais je parie. Ah, elle est menteuse, cette Sarah. Mais quand vous lisez de nouveau en foi, c'est quand vous lisez dans Hébreu, vous trouvez quelque chose de merveilleux. En Hébreu, chapitre 11, verset 11, et je vais vous montrer ça, Hébreu, chapitre 11, verset 11, elle est parmi les héros de la foi. Abraham est un homme de foi. Mais Sarah aussi, c'est une femme de foi. Dans ce verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a ri quand elle a entendu pour la première fois qu'elle aurait un enfant, mais elle n'allait pas rester là. Elle n'est pas restée à se rire un peu d'incrédulité que nous, on aurait fait si on avait été à sa place. Ça m'étonnerait que j'ai un enfant d'ici un an. Hein? Vu mon âge, vu ma situation, ça m'étonnerait. Son rire a changé. Parce qu'il y a le rire de l'incrédulité, mais il y a le rire de la foi. Et le rire de la foi, c'est « J'arrive pas à le croire, et pourtant c'est vrai, mais je sais que tu vas avoir un enfant, alléluia, c'est pas possible, Abraham, tu te rends compte, à mon âge, je vais avoir un bébé dans un an, mais c'est incroyable !» Le rire de la foi, et quand Isaac est né, on l'appelait rire, Isaac veut dire rire. Mais un rire de triomphe, un rire de joie, un rire de satisfaction, le rire de la foi. Je crois Dieu, malgré tout, et il a accompli sa promesse. Voilà la foi de Sarah, une foi triomphante. La Bible dit qu'elle a eu cet enfant parce qu'elle a cru que Dieu pouvait le lui donner. Et cette femme, Sarah, elle va accompagner son mari dans sa vie spirituelle. Elle va participer à ses démarches. Regardez, 1 Pierre chapitre 3, et quelques mots aux femmes ici présentes. Mesdames, ce passage-là, et le passage, c'est toute une boîte à outils pour vous, ou si vous voulez, c'est une armoire de pharmacie pour vous. 1 Pierre chapitre 3. La femme, elle a une lutte que les hommes ignorent. La lutte de la femme, la crainte de la femme, c'est d'avoir un mari qui ne prend pas ses responsabilités. Un mari qui pense d'abord à lui-même, avant de penser à elle. Qui pense à sauver sa peau et non pas à rassurer son épouse. Et mes amis, elles ont souvent raison de craindre ça parce que c'est très répandu chez nous les hommes. Moi d'abord et les autres ensuite. Moi d'abord et ma femme s'il en reste. Pas pour rien quand on dit, quand le bateau fait naufrage, qu'est-ce qu'on dit? Les femmes et les enfants d'abord. Hein? Non mais c'est cruel. Mais on est ainsi fait. La nature pécheresse est terrible. Sarah, quand même, est la femme d'Abraham, l'homme de foi que nous admirons tous. Mais il y a des moments dans la vie d'Abraham qu'il a vraiment mis sa peau avant la santé et le bien-être de son épouse. À deux reprises, en descendant en Égypte et en allant dans le pays de Guérère, parce que Sarah avait un problème, un grave problème, c'est qu'elle était trop belle. Trop belle. Enfin, pas trop belle, mais jamais trop belle, mesdames. Mais c'était un problème pour Abraham parce qu'il s'est dit, elle est tellement belle, moi je le vois, les autres hommes vont le voir. Et comme l'homme est attiré par la vue, il dit, oh là là, si entre là, la moitié des hommes vont être là, voir mon épouse, il dit, ouh, ça là, elle avait 75 ans, mais quand même, hein, elle a bien vieilli, on va dire. Ils vont la désirer. Et si je dis que, si elle dit que c'est mon mari, ils vont dire, ah ben celui-là, je vais faire de cette femme une veuve. tuer son mari et prendre la femme. Il dit, mais oui, mais ils vont te voir, ils vont te désirer, et puis ils vont me tuer pour te prendre, et moi je veux continuer à vivre. Alors tu vas leur dire que tu es ma sœur, ce qui était vrai à moitié, puisqu'elles avaient le même père, mais pas la même mère. Qu'est-ce que vous auriez dit, mesdames? Mais enfin, espèce de poule mouillée, espèce de lavette, t'as pas une colonne vertébrale? On a des domestiques quand même, tu pourrais faire une petite armée pour me protéger puisque je suis tellement belle selon toi. Mais tu prends des gens pour des abrutis ou quoi? Si tu dis qu'on est couple, etc., mais ils vont nous respecter, non? Attends, me faire passer, mais t'as pas le sens de loyauté, je croyais que j'avais épousé un homme. Voilà ce qu'on aurait dit, n'est-ce pas, mesdames? On a eu raison en plus. Regardez comment on fait. Et c'est magnifique. Verset 5. Verset 4, on parle de la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça, c'est le cœur de Sarah. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mes sœurs, est-ce que vous aimeriez être connues comme les filles de Sarah? C'est possible. Qu'est-ce que c'est qu'une fille de Sarah selon ce verset? Une fille de Sarah dit, mon mari, je lui trouve des défauts, mais c'est mon mari. Dieu m'a placé à côté de lui. Et quand je trouve qu'il n'est pas à la hauteur, de toute façon, ma confiance n'est pas en lui. Ma confiance est dans son Dieu et dans mon Dieu. Alors, quand il n'est pas tout ce que j'en attends, quand il me déçoit, je veux me souvenir que c'est mon Dieu en qui j'ai confiance. Et parce que j'ai confiance en Dieu, je vais faire ce qu'il me demande. Et s'il se trompe, Dieu le rattrapera, Dieu nous aidera, mais je ne vais pas me rebeller, je ne vais pas m'opposer parce que là, c'est notre union sera affaiblie. Je vais être soumise parce que j'ai confiance dans mon Dieu plus qu'en mon mari. Et si vous les femmes, vous dites à votre mari, tu sais, t'es super, hein, t'es génial, t'es beau en plus. Certains d'entre vous, si votre femme disait que vous étiez beau, vous tomberez à la renverse. Hein? Parce que vous dites, je crois qu'elle est devenue aveugle, ma pauvre chérie. Bon, on ne va pas forcément dire qu'il est beau, mais tu es généreux, tu es fort, mais tu sais, tu as des faiblesses. Mais ce n'est pas grave, je t'aime et je vais t'être soumise parce que je crois que Dieu va te diriger. Et si tu fais une erreur, je compte sur le Seigneur pour t'aider. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème du Seigneur. Mon problème, simplement, c'est d'être soumise et de te faire confiance. Mais je te fais confiance parce que je fais confiance surtout au Seigneur. Ça, c'est être une fille de Sarah. Et la Bible dit qu'elle ne s'est pas laissée troubler par une crainte. Elle n'a pas tenu ce discours à Abraham. Elle a dit, d'accord, mon Seigneur, ça veut dire mon maître, l'autorité de ma vie, tu es mon mari, Dieu m'a placé à tes côtés, tu veux que je te dise, leur dise que tu es mon frère, je suis ta sœur, je vais le faire. Oui, mais alors, elle a fini dans le harem de Pharaon. Mais heureusement que Pharaon n'était pas aussi pressé que les hommes d'aujourd'hui. Il fallait quelques mois pour faire des parfums avant de se préparer pour monter dans le lit royal. Et le Seigneur avait un peu de temps pour dire à Pharaon, attention, cette femme est mariée à cet homme. C'est un couple. Pharaon fait venir Abraham. Alors c'est quoi? Parce qu'il a versé la dot. Hein? Il a payé Abraham pour sa sœur, pour avoir comme femme. Il a tout fait qu'il fallait faire. C'était tout légal. Et Abraham n'a pas pipi en son. Il a pris les animaux, il a pris la dot. Il n'a jamais dit, oui, c'est quand même ma femme. Pharaon dit, mais c'est quoi ça? Mais je croyais que dans le pays, les gens ne craindraient pas Dieu, et comme tu dis, mais tu le prends pour qui? Des sauvages ou quoi? Mais non, mais il fallait le dire. Mais moi, j'aurais fait l'immoralité avec ton épouse. Prends ton épouse et garde la dot. Tiens, voilà, tiens. Voilà. Je l'ai achetée, je l'ai payée, elle est à moi légalement, mais prends ta femme, va-t'en. Pourquoi tu m'as fait ce tour-là? La honte. Il a recommencé quand ils sont allés à Guéra. Vraiment, il a vraiment peur pour sa peau. Hein? Ah, mais tu vas faire la même chose. Et les deux rois qui ne connaissaient pas l'Éternel l'ont vertement repris. Et Sarah, à travers tout ça, quelle était l'angoisse dans laquelle elle était? Ah, mais il n'y avait pas d'angoisse. Selon la parole, elle n'était pas angoissée. Elle était paisible. Pourquoi? Parce qu'elle comptait sur Dieu et pas sur son mari. Mes amis, la Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Mesdames, vous devriez pouvoir faire confiance à vos maris. C'est le but. Et nous, les hommes, nous devrions être dignes de cette confiance. Mais il n'y a aucun homme au monde qui peut donner à la femme le sentiment de sécurité dont elle a vraiment besoin. Elle ne pourra jamais être totalement satisfaite parce que c'est un besoin qui est plus grand que ce qu'un être humain peut donner. C'est pour cela que la vraie paix du cœur pour une femme, comme pour un homme, c'est de faire absolument confiance en l'Éternel. Et voilà le genre de vie intérieure qu'avait Sarah. Elle était le conjoint digne d'un homme de Dieu. C'est pas Abraham, grand homme de Dieu, avec Sarah et qui riait des promesses de Dieu. Non, 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 non. Sarah était une femme extraordinaire dans sa marche avec l'Éternel. Et ça a contribué à la formation spirituelle de leur fils Isaac et à sa propre spiritualité. La femme de Lot, on en sait très peu. On peut penser qu'elle aussi sans doute était gênée un peu par les choses de Sodome. Mais elle vivait en Sodome. C'est vrai, pour dédouaner un peu Lot, on dit c'est sans doute Madame Lot qui l'a poussée vers Sodome. Rien ne nous garantit que c'est elle qui l'a poussée dans cette direction-là. Mais comme Lot, elle n'éduque pas ses filles. Lot, il était choqué par l'homosexualité de Sodome. La sodomie vient de Sodome, c'est une ancienne pratique. Il était choqué. Mais apparemment, pas assez pour vraiment mettre ses enfants en garde. Nous ne savons pas ce qu'a pensé Madame Lot, mais en tous les cas, elle n'a pas davantage éduqué ses enfants. Et vraiment, la seule chose qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a désobéi à l'Éternel. On n'entend pas parler d'elle, à part les derniers instants de sa vie quand elle désobéit à l'Éternel. Dieu les a sortis. Un ange a pris les deux demoiselles, les deux filles non mariées de Sodome, de Lot avec des mains et ont tiré hors de Sodome. Il fallait vraiment les arracher de cette ville. Et l'autre a pris Monsieur et Madame Lot dans ses mains et ils les ont tirés hors de Sodome. Courez vers la plaine et surtout ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Et qui est-ce qui a regardé en arrière? La femme de Lot est devenue une statue de sel. La fin de la vie de Lot et de ses filles est horrible. On dit, mais comment est-ce que cette famille a pu finir si mal? L'atmosphère de la famille est établie par les parents. L'atmosphère ne sera jamais plus spirituelle que la vie spirituelle du papa et de la maman. Chez Abraham et Sarai, il y avait un contact avec le monde. Ils ont vécu en Égypte, ils ont vécu à Guérar, ils ont eu contact avec des habitants, mais il n'y avait pas entre eux et le monde un rapprochement affectif. Ils ne vivaient pas inféodés à la culture mondaine de leur époque. Ils étaient dans le monde, mais ils n'étaient pas du monde. Ils n'étaient pas mondains. Chez Lot et sa femme, par contre, il y avait un désir de vivre au milieu du monde. Il y avait un désir de prendre une part active, sans rechercher la présence de Dieu, sans rechercher une séparation avec le monde. Et c'est ça la différence. Les deux familles étaient croyantes, mais l'une vivait autour du Seigneur, l'autre vivait autour du monde. Chez les enfants, on voit chez les enfants cette éducation. Abraham enseigne à Isaac une obéissance totale à l'Éternel. Il fallait que Isaac ait vraiment une grande confiance, non seulement en l'Éternel, mais dans la spiritualité de son père. Quand ils arrivent en haut du mont Morija, Isaac avait déjà posé la question, on a tout ce qu'il faut pour un sacrifice à part l'agneau. Où est l'animal du sacrifice, papa? Ça veut dire qu'il avait vu pas mal de sacrifices, il savait comment ça se passait. Ils arrivent, bon, Abraham dit, l'Éternel pourvoira lui-même dans le sacrifice. C'est un peu vague, hein? C'est la première fois que ça arrive, hein? Pas de sacrifice. Ils arrivent et là, il apprend que c'est lui le sacrifice. Mais il n'oppose aucune résistance. Quand Abraham dit, ben, c'est toi qui vas être sacrifié, Dieu m'a dit de te sacrifier sur le mont Morija, je vais te lier mains et pieds et te mettre sur l'autel, pas la moindre résistance. Une confiance dans la spiritualité de son père, une confiance dans la relation qu'avait son père avec l'Éternel, et une grande confiance en l'Éternel lui aussi. De toute façon, Abraham croyait, si je dois faire mourir mon fils sur le mont Morija, Dieu va le ressusciter immédiatement et on va redescendre la montagne tous les deux. C'est ce qu'il croyait parce qu'il a dit à ses domestiques, nous reviendrons vers vous. Il faut quand même beaucoup de foi pour croire ça. Mais Isaac avait cette foi. Pourquoi? Parce qu'il avait vu l'interaction entre son père et l'Éternel. Il avait vu comment Dieu dirigeait la vie de sa mère. Sans doute papa et maman ont dû lui raconter bien des fois comment, dans quelles circonstances extraordinaires, il est né. Il avait une réelle compréhension de la nature de Dieu et il lui faisait confiance entièrement. Même quand à 40 ans, Isaac n'est pas encore marié, et il fallait quand même qu'il y ait une postérité. Dieu avait promis une postérité à travers Isaac, mais il n'est pas encore marié. On va chercher une femme pour toi, Isaac, pas n'importe qui, quelqu'un de la famille, de ta mère. Ah ben oui, on peut l'imaginer, mais j'y vais y aller, donne-moi ta carte bancaire pour les frais, et puis je vais me trouver une femme, une jolie femme comme maman. Non, c'est le vieux domestique qui va aller choisir une femme pour toi. Oh, combien de jeunes hommes ici de 20 ans diraient à leur grand-père « Est-ce que tu veux me trouver une femme pour moi ?» Hein? Bon, il n'a pas le goût d'aujourd'hui, il va prendre une femme des années 50, ça ne va pas. Non, c'est moi qui choisis. Isaac a dit oui, bien sûr. Il a fait confiance et il n'a pas été déçu au demeurant. Quand le vieux domestique est parti là-bas pour trouver une femme, il n'a pas dit, Seigneur, donne-moi la plus belle fille du village. Il a dit, donne-moi, Seigneur, une femme qui a un esprit de service, un esprit d'initiative, un respect pour les étrangers, un respect pour les personnes âgées, quelqu'un qui n'est pas paresseuse, mais qui est dynamique, qui est travailleuse, qui est loyale, qui est gentille, des qualités de cœur et de caractère. Et Dieu a donné Rebecca, qui avait toutes ses qualités en plus, elle n'était pas moche, ce qui ne gâche rien. Une belle jeune fille, aussi belle dans son cœur qu'à l'extérieur. Une femme merveilleuse pour Isaac. Ah oui, Isaac n'a pas perdu au change. Il a fait confiance au Seigneur. Les enfants de Lot, ces quatre filles, quelle tristesse! Apparemment, elles n'ont reçu aucune éducation dans la piété. Contrairement à ses parents, leurs parents qui même à force de fréquenter Abraham, connaissaient un peu de l'Éternel. Les deux filles aînées épousent des hommes de la région de Sodome. On a du mal à croire. que ces deux filles aient voulu épouser, excusez-moi de le dire, des homosexuels. Parce qu'à Sodome, on était homosexuels et hétéros aussi. On avait des femmes, on avait des enfants, et puis on aimait les autres hommes du village. C'est assez horrible, enfin, pour la plupart d'entre nous, ça nous va à rebrousse-poil. Mais c'était le cas chez tous les sodomites. Et ces deux jeunes filles épousent deux hommes de Sodome. Et les deux dernières, les pauvres, elles n'ont jamais été mariées, mais pour élever une postérité à leur père, elles ont commis l'inceste avec lui après l'avoir enivré. Quelle histoire horrible! Quelle fin ignominieuse! Quand on compare Lot dans sa caverne avec ses deux filles, complètement ivres, ah! Et puis Isaac et Rebecca, dans la présence de Dieu, on dit, mais vraiment, on a tonton Abraham et le neveu Lot qui vivaient côte à côte, qui connaissaient le même Dieu, et quelques années plus tard, on voit les deux familles qui divergent. L'une reste près du Seigneur et l'autre tombe dans le monde. L'une prospère, l'autre est détruite. C'est pas le tout. Ce n'est pas le tout de dire « Je suis sauvé ». Ce n'est pas le tout de dire « J'ai une Bible à la maison ». Ce n'est pas le tout de dire « Je suis baptisé et mes enfants vont à l'école du dimanche ». Ce qui compte, c'est quelle est l'atmosphère qui règne dans notre foyer. Si nous devions demander à nos enfants, sans qu'on ne soit là, quel genre de parents as-tu? De quoi parle-t-il à la maison? Et s'ils devaient dire, oh, mais de tout et de rien, d'abord ils sont scotchés à la télé, ils ne les quittent pas des yeux, je ne les vois jamais lire la Bible, on fait une prière devant le repas, parce que ça c'est normal, hein, on prie devant le repas, mais vite fait, hein, parce qu'on a faim. Mais sinon, jamais ils nous réunissent pour parler de Dieu. Moi, je suis dans ma chambre, je suis dans mes jeux, machin. Moi, j'ai rien contre les jeux, j'ai rien contre la télé. J'en ai une, j'espère que ça ne vous scandalise pas. Mais, quelle est l'atmosphère de la maison? Est-ce que ces écrans sont des outils pour les moments peut-être agréables, mais où est-ce que c'est le Dieu de notre foyer? Quelle est l'atmosphère que nous avons dans notre foyer? Alors le papa et maman vont dire, ben nous, le foyer chrétien, elle est sauvée, je suis sauvé, on est tous les deux sauvés, on est baptisés, on est membre de l'Église. Voilà. Mais que diraient les enfants? On a parlé avec quelques jeunes filles américaines il y a quelques années de ça, et elle disait, mon père est diacre, ma mère enseigne les cours de dimanche à l'église, on est à l'église trois fois par semaine, dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, chaque fois que les portes sont ouvertes, on est là. Mais jamais papa ne nous réunit pour lire la Bible, pour prier. On ne mange jamais un repas ensemble, sauf au restaurant dimanche midi. Et sinon, chacun va son chemin. On n'a jamais de conversation avec nos parents, de rien, et surtout pas du Seigneur. Est-ce étonnant que les enfants disent, je ne sais pas pourquoi mes parents perdent leur temps à l'église. Je vois bien qu'ils aiment le monde et l'argent plus que le Seigneur. Moi, je ne vais pas m'embarrasser de Dieu, je vais carrément aller pour l'argent et le monde, puisque c'est ce qui les intéresse, c'est ce dont ils parlent. Quelles sont nos valeurs? Nous, les parents, on peut dire, ah moi, j'ai les bonnes valeurs. Est-ce que nos enfants diraient que nous avons des bonnes valeurs ou est-ce qu'ils disent, ah oh, bon, la première nouvelle. Mon père lit la Bible? Ah bon, je ne l'ai jamais vu dans la Bible. Mon père prie, je ne l'ai jamais vu prier. Ben, il prie à l'église, oui, bien sûr, mais non, mais chez nous, non, ce n'est pas du tout ça. Mes amis, quel genre de maison avons-nous? Souvenons-nous d'Abraham et de Sarah. Souvenons-nous de la famille de Lot. C'était des familles croyantes, mais pas du tout de la même manière. L'une cultivait la présence de Dieu et l'autre non. Et regardez ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que si nous avons une maison vraiment tournée vers le Seigneur, que tout non, on n'a pas la garantie que nos enfants vont suivre nos traces. Dieu leur a donné aussi un libre arbitre. Mais que c'est triste Combien notre cœur peut être brisé si on devait dire un jour « Mes enfants sont loin de Dieu » et j'ai bien l'impression que c'est un peu de ma faute parce que je n'ai pas cultivé la présence de Dieu, le regard de Dieu dans notre foyer. Souvenons-nous de ce qu'a dit la parole. Vous parlerez de l'Éternel, vous parlerez de ses œuvres quand vous vous levez, quand vous vous couchez, quand vous sortez, quand vous entrez. Ça veut dire que le Seigneur sera dans vos conversations. Vous allez vivre dans la présence de Dieu. Dressons des autels, établissons des temps de communion avec le Seigneur en présence de nos enfants pour que Dieu puisse bénir nos foyers. Notre Dieu et Père, nous voulons te prier que tu nous aides. Nous savons que les plus grandes souffrances de notre vie sur terre sont des souffrances liées à notre famille, que ce soit entre conjoints, que ce soit entre parents et enfants. Rien ne nous touche plus que des tragédies familiales. Ce sont les enfants qui font le fils prodigue qui nous gardent réveillés toute la nuit, dans la tourmente et dans le regret. Nous te prions que tu nous donnes de faire notre part, de vivre notre vie pour toi. Agis, Seigneur, par ton nom. Amen.